Ce matin, ce sur quoi je voudrais m'arrêter un moment, c'est la question de nos relations. On observe tous les jours, dans notre vie, au travail, dans les commerces qu'on fréquente, dans les médias, sur la route, ô combien, ou dans la rue tout simplement, des relations compliquées, parfois conflictuelles, qui témoignent d'un état de tension assez élevé dans notre société. Jusqu'à notre représentation nationale, l'Assemblée, qui résonne de cris, de vociférations permanents, qui en disent long sur ce sujet des relations. Et même si nous essayons de prendre du recul, combien de fois ne sommes-nous pas surpris dans notre vie quotidienne de voir des situations dégénérer, en dispute, en bagarre, en agression physique, verbale, parfois pour des motifs qui pourraient apparaître assez futiles, ou du moins sans proportion avec les comportements qu'ils entraînent. Si l'on se promène sur les réseaux sociaux, alors là, cette fois, on atteint des sommets dans la violence, des Himalayas de violence verbale, à travers la désignation de coupable, la condamnation, l'injure, et tout cela en 280 caractères, en tout cas pour Twitter. Ça permet donc d'être très expéditif dans le jugement et sans nuance dans l'expression des opinions. Lâchez-vous. Et ces tensions ne sont pas nouvelles, elles ont toujours existé. Mais je ne crois pas être le seul à en ressentir à notre époque l'accentuation. Est-ce que je me trompe ? Heureusement que vous m'avez dit dans ce sens-là. Sinon, non, ces tensions nouvelles ne sont pas nouvelles, elles ont toujours existé, bien sûr. Mais je ne crois pas vraiment être le seul à voir que ça dégénère un peu quand même en ce moment. Ces évolutions du lien social, eh bien, il y a un sociologue qui s'appelle Pierre-Yves Cusset. Normalement, ça doit marcher, voilà. Oui, c'est bien. Pierre-Yves Cusset, qui est toujours un sociologue, mais qui, dès 2006, décrivait les choses dans une revue qui s'appelle Horizon Stratégique, à la Documentation française. Et voilà ce qu'il disait, ce qu'il écrivait. Depuis les années 60, le lien social a connu un certain nombre de transformations importantes. Les relations sont plus électives. Le centre de gravité sociale s'est déplacé vers la sphère privée et les appartenances se font plus réversibles. Ces tendances ont toutes les chances de s'affirmer encore dans les prochaines années. Synonymes de liberté nouvelle pour l'individu, elles peuvent aussi être source de fragilisation, tant pour ces individus, risque d'isolement par exemple, que pour la société dans son ensemble. Relatif des intérêts pour la sphère politique, difficulté plus grande à supporter des situations de coprésence non choisies. La façon dont les liens privés se tissent aujourd'hui n'est donc pas sans conséquence sur la structuration du lien civil qui relie chacun à la société dans son ensemble. Et ce lien est souvent approché à travers ses manifestations politiques, participation aux élections, confiance dans les représentants, engagement associatif. Mais ils éprouvent pourtant aussi quotidiennement, dans les espaces publics, à travers ces millions d'interactions anonymes qui façonnent plus ou moins consciemment le sentiment de faire ou non société. Voilà ce qu'écrivait Pierre-Yves Cusset. Alors, repliement sur soi, désengagement du collectif, individualisme, relations électives, c'est-à-dire en fait relations sélectives, méfiance par rapport à ce qui nous est autre, etc. Le tableau dressé par sociologue fait quand même beaucoup écho à des phénomènes que nous constatons dans nos vies sociales. Et comme nous évoluons dans ce bain-là, tous les jours, dès que nous sortons de la maison, si je puis dire, même pas, dès que nous allumons nos écrans, tout simplement, eh bien, nous ne pouvons pas être assurés qu'ils n'influencent pas nos propres comportements. Alors, sommes-nous certains que ces évolutions n'ont absolument aucune prise sur nous et que nous y échappons du seul fait de notre appartenance au peuple chrétien? Je sais que pour moi-même, en tout cas, je n'y échappe pas. Alors, effectivement, chez nous, jamais, pas de cela parmi nous. On peut néanmoins se demander pourquoi l'Église, le peuple des croyants, serait exempté des effets de ces évolutions. Quand on lit ce que Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée 3, 1 à 5, voilà ce qu'il écrit. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Mon cher Timothée, détourne-toi de ces gens-là. » Alors, il faut bien noter que, tout d'abord, que Paul ne parle pas à Timothée de la société en général, mais bien de l'Église dans les derniers temps. Ça paraît inimaginable. Et pourtant, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Pas forcément de l'église d'Éphèse, où officie Timothée, mais bien de l'église en général. Pour le coup, dans cette description, qu'est-ce que nous ressentons ? Bien qu'il n'y a plus d'étanchéité entre l'environnement de l'église et l'église elle-même. Elle a importé dans son sein tous les comportements qui témoignent à la fois de la dégradation sociale et de la dégradation personnelle. Alors, d'abord, dégradation personnelle. J'ai surligné en jaune les mots qui s'y rapportent. Égoïste, avide d'argent, vantard, prétentieux, pas d'égard pour leurs parents, ingrat, dépourvu de respect pour ce qui est sacré, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu, etc. etc. Voilà les aspects de dégradation personnelle. Mais quand on regarde les aspects de dégradation sociale, sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, emporté par leur passion et enflé d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Waouh ! Ça tape fort. Et ensuite, ce qui ressort d'un tel texte, selon les commentaires auxquels on se réfère, c'est le fait que cette attitude que décrit Paul abondamment, c'est celle des individus rois, centrés sur leur propre personne, qui ont oublié la grâce. Oublié la grâce. Ils ont oublié d'où ils viennent, ils ont gardé les pratiques, comme il dit, extérieures de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Et ils sont donc devenus, finalement, ce que décrit Paul, les simples décalques de leurs contemporains. On ne voit plus la différence. On ne voit plus la différence. Ils sont en fait le centre de leur monde. Donc en termes de relations sociales et humaines, tout le reste en découle. Le mauvais état intérieur se traduit directement par une absence de sensibilité à l'autre. Un manque d'amour, une absence de maîtrise de soi, une bouche qui répand la calomnie, etc. Et non, dit Paul, l'Église, dans les dernière période de l'histoire, ne sera pas épargnée. La peinture n'est pas flatteuse, mais l'avertissement de Paul, il est sévère, il est sans complaisance. Alors nous ne savons pas vraiment si nous sommes dans cette période finale de l'histoire, mais nous voilà prévenus de l'inimaginable. Une église dans cet état-là, elle ne se voit plus dans son environnement, elle s'y fond totalement, malheureusement. Et les relations humaines sociales sont même devenues toxiques parce que la grâce a été oubliée. Vous allez dire, oh là là, un peu d'ouverture après tout ça ? Oui, quand même, parce que, heureusement, Paul ne nous laisse pas sans perspective. Et elles ont directement des conséquences beaucoup plus heureuses, celles-là, sur nos relations humaines et sociales. Il va nous donner des clés de ce qui caractérise dans l'Église des vraies relations entre ses membres, pourvu qu'ils aient le désir de, dit-il, revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire d'adopter des attitudes et des comportements qui conviennent à des rachetés, qui n'oublient pas, eux, d'où ils viennent. Et ces clés, elles sont rassemblées dans les chapitres 4 à 6 de la lettre aux Éphésiens, consacrées à la façon de vivre, comme dit Paul, j'ouvre les guillemets, de ceux qui ont appris à connaître Christ. Verset 20 du chapitre 4. Alors, on va se concentrer sur un passage, le passage relatif aux relations humaines et sociales dans l'Église ce matin, telles qu'elles sont préconisées par Paul. Et lisons ensemble ce texte. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son voisin, à son prochain, pardon, son voisin aussi d'ailleurs. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres, ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Que nous dit Paul ? Paul nous dit que nous sommes reliés pour nous lier. Et je vais y revenir. On voit bien que là, il s'agit de bien différentes relations que celles que j'ai décrites tout à l'heure dans la lettre aux Timothée, enfin, que décrit Paul dans la lettre aux Timothée. Mais je commence volontairement par la fin de ce passage. La fin de ce passage, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. La première source d'inspiration pour nous, pour nos relations, elle est là. Et je veux y insister vraiment fort ce matin, c'est que nous sommes des bénéficiaires. Nous avons d'abord été aimés et bien aimés. Avant toute considération, pour dire ce que peuvent et doivent être les relations dans l'Église, il y a eu un avant, il y a un préalable à considérer. Pour nous tous, en tout cas qui avons saisi la signification du sacrifice de Jésus, nous sommes devenus des enfants, et des enfants bien-aimés. Ce qui fait dire à Paul que nous avons donc toutes les chances de suivre l'exemple de notre Père qui est inspirant en lui-même. C'est un fait, vous avez été aimé, donc vous avez logiquement devant les yeux un exemple à suivre, celui qui vous a aimé. Et suivre l'exemple, dans d'autres traductions, c'est traduit par imiter. Dans la Nouvelle Bible Second, là, c'est la traduction du Semeur, la Seconde 21, c'est « Soyez les imitateurs de Dieu ». Voilà ce qu'on trouve dans la Seconde 21. Et nous ne pouvons l'être précisément imitateurs que parce que nous sommes enfants bien-aimés. Et Martin Luther, le réformateur, avait formulé les choses de la façon suivante. Il avait dit, il avait écrit, ce n'est pas l'imitation qui a fait les fils, mais la filiation qui a fait les imitateurs. C'est parce que vous êtes devenus fils et adoptés que vous pouvez être imitateurs. Et c'est important de le souligner en préalable. L'exemple à imiter, c'est celui du don total, celui de Dieu à travers son fils. Paul l'exprime ainsi dans la suite de ce passage. Je crois que... Oui, c'est ça. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Le modèle, il est très élevé, mais il donne justement une idée de la hauteur à laquelle se situe la relation que Dieu a voulu instaurer avec nous. Celle d'un père avec ses enfants. Celle d'un père que ses enfants admirent et ont donc envie d'imiter. Vous voyez ça souvent dans les familles, hein, quand le père a une aura pour ses enfants, bon d'abord pourvu que ça dure, mais quand c'est la réalité, regardez le comportement des enfants par rapport à leur père, hein, ce désir de s'identifier à, de coller à ce qu'il est, de l'imiter, ça témoigne quand même quelque part d'une forme d'admiration, et bien c'est de ça qu'il s'agit ici. D'autre part, je voudrais souligner aussi que je ne suis pas le seul enfant bien-aimé. Et la question des relations arrive là. Il se trouve qu'en même temps que j'hérite du statut d'enfant, j'hérite aussi d'une fratrie. Les deux vont ensemble. Une relation verticale et une relation horizontale avec, à la croisée de ces deux relations, Christ. Paul écrit « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés » et non pas « Puisque tu es l'enfant bien-aimé, toi tout seul. » Donc ça veut dire que je ne peux pas avoir l'exclusive et qu'il va falloir partager, comme dans toute fratrie. Et surtout, ça veut dire qu'il faut que je réalise que le frère ou la sœur qui est à côté de moi, dans l'Église, a été élevé au même rang de dignité que moi. Il a le même rang de dignité que moi. Il y a donc une excellente raison de suivre les recommandations que développe Paul dans les versets qui précèdent et sur lesquels on va juste revenir. C'est que le fait d'être introduit dans cette réalité nouvelle de la relation avec notre Père nous met en position, en situation, en capacité d'engendrer des relations nouvelles entre nous. Et nos relations, là, elles ne sont pas simplement humaines, elles ne sont pas simplement sociales. On sait que dans l'Église, ce sont des relations fraternelles. Et sororel, je ne sais pas comment on dirait, enfin, ouais, les deux. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas notre part de chemin à faire. S'il y a une caractéristique essentielle pour celui qui est devenu un enfant bien-aimé, c'est qu'il n'est pas devenu pour autant un exécutant ou un robot perfectionné. Et qu'à l'image de l'enfant, nous, qui nous disons chrétiens, nous gardons la maîtrise de nos choix pour le meilleur et pour le pire. Voilà notre part. Il nous revient de décider dans chaque situation en responsabilité. On a notre part de chemin à faire. Alors, ce n'est pas autre chose que ce que dit Paul, hein. Dans les deux versets qui précèdent notre passage. Il dit, je reprends entre crochets ce qui précède, « On vous a fait savoir ce qu'il est, Christ, hein, et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. » Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, et à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau. Voilà, on y revient. Créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint, conformément à la vérité. Il y a une part qui nous revient. Rester disponible pour pouvoir être renouvelé à l'esprit de Dieu, et le laisser renouveler notre intelligence, c'est notre responsabilité. Et puis, nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre pour revêtir l'homme nouveau. Cette transformation permanente, elle n'exige pas de nous des efforts, mais elle exige de nous de la vigilance, avant tout par rapport à nous-mêmes, et de l'humilité pour accepter d'être constamment renouvelé. Selon la pensée même de Dieu. Et c'est notre part, c'est la part qui nous reste. C'est pourquoi Paul le dit dans la suite du texte, vous allez être placés devant des choix. À la place du mensonge, choisir la vérité. Et je ne fais que citer le verset à quoi correspond ce qui est écrit en jaune, qui ne fait pas partie du verset. À la place d'une colère qui dure, choisir de mettre une limite à sa colère. La colère n'est pas absente, la question c'est quel impact elle a. À la place du vol, choisir de travailler pour pouvoir donner. À la place de paroles malsaines, choisir des mots qui construisent et qui font du bien. Voilà ce que Paul met devant nous dans ce passage d'Éphésiens 4. Et nous revêtir de l'homme nouveau nous demande précisément de faire ces choix qui nous incombent constamment, tous les jours, et parfois plusieurs fois par jour. Débarrasser du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, et on ne peut pas se déshabiller tout seul, il faut qu'on se déshabille tout seul, il faut qu'on se vête tout seul, qu'on s'habille tout seul en la matière. Mais je vais y venir pas tout seul. Pourquoi ? Parce que nous sommes accompagnés, et c'est Paul qui le souligne, par l'Esprit de Dieu. Ces choix que nous avons à faire, ils sont le témoignage et le signe, le fruit de notre appartenance, ce qu'on vient de citer tout à l'heure. Mais dès le moment où nous sommes devenus enfants bien-aimés, j'y reviens, comme le disait Paul précédemment, nous avons en même temps été identifiés comme faisant partie d'un nouvel ensemble. Et prenons une image. Lorsque on mélange les troupeaux pour les amener en estive, pendant la période d'été, ces troupeaux, vous le voyez, c'est à quoi je fais allusion, ils sont marqués parce qu'ils sont mélangés tous d'un signe distinctif. Ils ont une espèce de tatouage ou à la peinture, souvent, qui fait qu'à la fin de la saison, chaque propriétaire retrouve ses bêtes. Et c'est exactement ce que Paul dit qui nous est arrivé. C'est aussi en Christ, vous qui avez cru, que vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété, comme le jour de la délivrance finale. C'est parce que nous avons cru, parce que nous avons reconnu que nous avons été marqués et que ce signe distinctif dit à qui nous appartenons quand il s'agit de retrier le troupeau à la descente de l'estive. C'est important. On a en partage l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et c'est un privilège. L'Esprit de Dieu près de nous et en nous. Et ce n'est pas moi qui dis ça, près de nous et en nous. C'est Jésus qui, quand il annonce la venue de l'Esprit Saint à ses disciples, emploie bien cette expression, près de vous et en vous. Alors ça, bien sûr, tout ça a des conséquences sur nos relations. Et on va lire à ce sujet la suite du texte, et notamment le verset 30. Et ça nous demande effectivement de veiller sur nous-mêmes. N'attristez pas le Saint-Esprit, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Ce verset, il est lié à tout ce qui précède. C'était le verset ici. Il est lié à tout ce qui précède. Dominique Angers, qui est doyen de la fac de Théo de Montréal, souligne le fait que Dieu est présent par son Esprit au sein même de nos relations fraternelles. Ne pensons pas, écrit-il, que nos relations se limitent à la seule dimension horizontale. Ce que nous faisons subir aux autres, nous le faisons subir à l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, c'est une personne que l'on peut vraiment attrister. Fin de citation. Et nous sommes donc, aux yeux de Dieu, marqués d'un signe d'appartenance qui est la communication de son Esprit dans nos vies, mais nous sommes aussi quotidiennement accompagnés par son Esprit, près de nous et en nous, comme le dit Jésus, dans une relation de très très grande proximité. Cette relation, nous pouvons la ternir, nous pouvons la gâcher par nos attitudes et nos comportements, nous pouvons attrister l'Esprit et nous pouvons, alors cas extrême, voir jusqu'où ça peut évoluer dans l'exemple que donnait Paul à Timothée dans les derniers temps. Donc il nous faut effectivement veiller sur nous-mêmes et c'est un conseil que Paul donne à Timothée mais qui vaut pour nous tous. Le verset qui suit la recommandation de Paul de ne pas attrister l'Esprit nomme clairement tout ce à quoi nous devons veiller. Il y a un peu de travail quand on est membre d'un troupeau, finalement, pour nous. Il y a une part qui nous revient. Alors, il donne les exemples, amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. » Les mots peuvent nous paraître très forts, même si on n'a pas le sentiment de vivre ça dans notre Église aujourd'hui, mais on est toujours averti par Paul des enchaînements. Et les enchaînements, les voici. L'amertume silencieuse qui peut me ronger alors sans que personne ne s'en rende compte, mais qui agit pour moi comme un ferment, déjà, mais personne ne le voit. Puis la fureur, une indignation qui me soulève, une situation que je n'arrive pas à admettre, mais c'est encore en moi que ça se passe, et cette fureur peut ne pas se voir encore. Puis la colère, qui elle commence quand même à s'apercevoir et qui s'exprime. La question c'est, s'éteindra-t-elle au coucher du soleil? Ou est-ce qu'elle va m'accueillir au jour d'après en me réveillant? Moi j'admire les gamins, mais Louise par exemple, la petite fille, qui est capable de se mettre en colère, mais alors une heure après, c'est ailleurs. C'est extraordinaire. C'est toujours trop long pour la mère, hein, c'est clair. Mais ça passe pas le coucher du soleil, quoi. Ça passe pas le coucher du soleil. Les éclats de voix. Alors là, on passe un seuil. On passe un seuil parce que là, j'ai besoin d'élever le ton, de crier pour être entendu. Ma vision des choses, je dois absolument la communiquer. Il faut que ça se sache. Et avec force. Mais ça ne se fait pas sur le ton du dialogue, ça se fait sur le ton vraiment, on est monté dans les tours, comme on dit aujourd'hui. Et enfin, les insultes, quand les éclats de voix ne suffisent pas, et que je me suis trouvé, cette fois-ci, non pas un frère avec qui être en relation, mais un adversaire à combattre, qui est devenu un ennemi. Et que dit Paul? Il dit « Faites disparaître tout cela. Faites disparaître tout cela au milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. » Alors la liste, elle est déjà longue. Mais si vraiment Paul avait voulu l'allonger, il aurait décrit toutes les formes de méchanceté qu'il est possible de rencontrer. Il ne le fait pas. L'essentiel est compris. L'essentiel, c'est faites disparaître tout cela au milieu de vous. Et ce n'est pas juste un conseil, « Oh, ça serait bien que vous fassiez... Pensez-y à l'occasion. » Non, non, c'est une instruction, c'est faites disparaître tout ça de vous. Ça, question de vie ou question de mort d'église. Je m'achemine vers la fin avec un dernier aspect qui est le fait de veiller sur nous tous, en veillant sur nous-mêmes, mais en veillant sur nous tous. Parce que Paul ne nous laisse pas sur l'amertume, les éclats de voix ou la méchanceté. Dans cette navigation que représente une vie d'église, il a nommé les risques, il a bien identifié les écueils, mais il sait aussi nous montrer, pour finir, quels sont les vents favorables. Et il s'agit des éléments suivants. On va lire ces versets. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de notre Père, que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Soyez un bon et compréhensif. Alors, on dirait aujourd'hui plutôt soyez bienveillant et dans l'empathie. Plutôt comme ça. On le dirait plutôt comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est aussi fort ou plus faible que ce qui est dit là, mais l'idée c'est quand même que voilà, je sors de ma sphère et je suis centré sur l'autre. Et a priori, bienveillant et plein d'empathie. Deuxième élément, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Troisièmement, que votre vie soit dirigée par l'amour ou marchez dans l'amour. Voilà les trois vents favorables. Bonté, compréhension, pardon et marcher dans l'amour. Et c'est les liants indispensables de la vie d'une assemblée de chrétiens. Il témoigne d'une volonté de faire la place la plus accueillante qui soit à nos frères et sœurs. Et si j'inverse les choses, c'est sans doute aussi ce que j'attends. Que l'on me considère avec bienveillance et qu'on me comprenne. que l'on sache aussi me pardonner quand j'ai dérapé. C'est ce que j'attends. Que je puisse être aussi le bénéficiaire de cet amour total et sans calcul dont Jésus a fait la démonstration. C'est ce que j'attends. Donc, puisque c'est ce que j'attends, c'est aussi ce que l'autre attend. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, et ça, c'est Jésus qui le dit dans le sermon sur la montagne. Alors, conclusion sur cette question initiale. Qu'est-ce qui inspire nos relations ? Ce n'est pas un code de conduite universel, ce n'est pas un système de règles sociales communément admises, ce n'est pas un code, quel qu'il soit, de valeurs qui serait absolument universel, même si on pourrait le souhaiter. Et d'ailleurs, on observe que dès qu'il y a un code ou un ensemble de règles, l'énergie est très dépensée pour les contourner, voire les détourner. Donc ça ne suffit pas. Ce qui inspire nos relations, c'est d'abord que nous savons que nous avons été inclus dans une communauté d'enfants bien-aimés qui se savent rachetés et qui se souviennent d'où ils viennent. Les enfants que nous sommes savent donc très très bien quel est l'exemple à suivre et le père à imiter. Ce qui inspire nos relations, c'est aussi l'assurance que ce père est présent par son esprit près de nous et en nous en permanence. Et que nous avons pour autant notre part de choix et de décision à prendre pour vivre des relations qui le réjouissent plutôt qu'elles ne l'attristent. Ce qui inspire nos relations, c'est la parfaite concrétisation de la bonté, du pardon et de l'amour dans la personne de Jésus-Christ. Alors en conclusion, oui, Paul nous a donné des clés, des perspectives. On a le privilège de savoir quelles sont les clés de nos relations. Elles ne sont pas cachées quelque part, hein. Elles sont manifestes et explicites. Alors des clés, vous savez ce que c'est, hein. Ça se perd, ça s'égare, ça reste dans une poche. Mais leur vocation première, quand même, c'est d'ouvrir des portes pour découvrir de nouvelles pièces et de nouveaux espaces. Alors à nous de nous en servir dans cette direction-là. Amen.